Chapitre 36. Épilogue. Pardaillan était-il mort? Jehan de Pardaillan, son fils, et Valvert, accourus sitôt que la fatale nouvelle fut arrivée jusqu'à eux, firent faire et firent eux-mêmes les recherches les plus minutieuses. Au dehors, tout autour du lieu où s'était dressée la ferme, et jusque très loin, on ramassa des débris de toutes sortes. Mais parmi ces débris, rien qui ressemblât à un humain. Pas le plus petit objet ayant appartenu à celui dont on cherchait les restes pour les faire inhumer chrétiennement. Sous terre, ce fut une autre affaire. Tout de suite, Jehan et Valvert trouvèrent le corps de Fausta. Elle n'avait pu fuir bien loin. Chose étrange, le feu et l'éboulement avaient respecté son corps, qui était demeuré intact sans une écorchure. Seule, une petite contusion à la tempe, de laquelle quelques gouttes de sang avaient jailli, traçant sur sa joue un mince filet rouge. Étendue sur le sable blanc, au milieu d'un amas de pierres, elle semblait dormir. Fausta, en fuyant dans le noir, avait dû faire un faux pas, se heurter à quelque obstacle invisible. Elle était tombée, se faisant à la tempe cette petite blessure. Était-elle morte de ce choc? Morte d'une commotion intérieure ou étouffée? Le certain est qu'elle était bien morte. Mais, pas plus sous terre que sur terre, on ne trouva la moindre trace de Pardaillan. Vivant ou mort, Pardaillan paraissait être évanoui comme une ombre, volatilisée. Pendant des jours et des jours, Jehan, qui connaissait ses galeries souterraines presque aussi bien que son père, et Valvert, s'obstinèrent dans leurs pieuses recherches. Ils durent finir par y renoncer. Mais de ces recherches mêmes, ils gardèrent la ferme conviction que Pardaillan n'était pas mort. Le roi tint la parole qu'il avait faite à Pardaillan et confirmait à Valvert. Il fit appeler monsieur et madame d'Ancre et leur demanda la main de la comtesse de Lésigny pour son ami le comte de Valvert. Cette demande, cet ordre formel pour mieux dire, il le formula en des termes tels que Conchine et Léonora demeurèrent convaincus que le roi connaissait le terrible secret de la naissance de Florence et que ce mariage qu'il imposait était l'unique condition d'un pardon général. Il se trompait. Le roi répétait les paroles dictées par Pardaillan sans en saisir le sens réel. Mais ils crurent qu'ils savaient, eux. Épouvantés, ils se hâtèrent de consentir à tout ce que le roi voulut. Trop heureux d'en être quittes à si bon compte. C'est ainsi que, 3 mois après cette terrible explosion, qui demeura toujours entourée d'un mystère impénétrable pour le populaire, Valvert, en cette même église de Saint-Germain-l'Auxerrois où il avait dû l'arracher à Rospignac, épousa sa bien-aimée Florence en présence du roi et de toute la cour. Valvert se retira dans ses terres, rachetées, agrandies, embellies, et qui touchaient aux terres du fils de Pardaillan, son cousin par alliance. Les deux familles vécurent là, côte à côte, n'en faisant qu'une. Il va sans dire que Landry Coquenard, enrichi par Valvert, ne quitta pas son maître pour cela. Pour tous les trésors du monde, il n'aurait voulu se séparer de celle qu'il continuait toujours à appeler en lui-même la petite. Landry passait une bonne partie de son temps avec ses deux compères, Escargas et Gringaille, qui avaient aussi leur petit domaine par là. Il va sans dire également que la bonne mère Périne suivit sa chère petite Loïse, laquelle, comme on pense, ne manqua pas d'être gâtée outrageusement, ayant 3 mères et 4 ou 5 pères qui s'acquittaient à qui mieux de ce soin. Valvert et son cousin, Jehan de Pardaillan, parlent souvent de Pardaillan et y pensent toujours. Et quand ils en parlent, l'un des deux, religieusement approuvé par l'autre, ne manque jamais de s'écrier « Monsieur de Pardaillan n'est pas mort. Un homme de sa trempe demeure immortel. » La grande Camuse elle-même n'oserait le toucher de son doigt décharné. Non, Pardaillan, le chevaleresque, le preux des preux, Pardaillan n'est pas mort. Et un beau jour, au moment où nous nous y attendrons le moins, nous le verrons paraître, parmi nous, de retour de quelque lointaine et épique chevauchée.